Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, c'est vendredi, c'est le club des idées du grain. Le pilon, c'est le sort réservé à la première édition du livre des commémorations nationales 2018, à laquelle édition va devenir collector pour qui en détient un exemplaire. La ministre de la Culture, Françoise Nyssen, a en effet demandé dimanche dernier une réédition de l'ouvrage expurgé de ses pages 154, 155 et 156, celle consacrée à Charles Maurras. Maurras, royaliste, anti-parlementariste, antisémite, figure intellectuelle marquante de la Troisième République, condamné à la réclusion criminelle à perpétuité et à la dégradation nationale pour avoir inspiré la politique collaborationniste de Vichy pendant la Seconde Guerre mondiale, un très lourd pédigré. Commémorer un tel personnage reviendrait à lui rendre hommage, a estimé la ministre. Un autre projet de commémoration fait polémique ces jours-ci dans un registre complètement différent. Cette fois, il s'agit non pas d'un personnage, mais d'une œuvre qui n'existe pas encore tout à fait. Il s'agit du bouquet de tulipes géants de Jeff Koons. La sculpture de l'artiste américain doit être installée devant le palais de Tokyo à Paris pour rendre hommage aux victimes des attentats du 13 novembre 2015. Une pétition a été lancée contre cette œuvre, jugée opportuniste et sans lien avec l'événement concerné. Alors ces deux affaires, mais il y en a d'autres, rappellent à quel point la commémoration du passé est un acte politique, en tout cas susceptible d'être jugé comme tel. Alors Maurras, Koons, etc., des commémorations à côté de la plaque. C'est à partir de ce titre dont nous sommes très fiers au sein de l'équipe du Grain à Moudre que nous allons discuter ce soir en compagnie de trois des membres du club. Aude Lancelin, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste notamment pour Le Média TV. Vous avez publié récemment au Lien qui libère La pensée en otage. Philippe Manière, bonsoir.
Bonsoir.
Consultant pour Footprint Consultant, c'est le nom de votre cabinet. Vous êtes par ailleurs éditorialiste à Challenge. Et puis Sylvain Bourmeau, bonsoir.
Bonsoir.
La suite dans les idées, c'est sur France Culture le samedi à 12h45. Et ça y est, Ozana, il est né, AOC, analyse opinion critique, votre site lancé la semaine dernière. Ça se passe bien?
Ça fait une semaine, oui, très bien.
Eh bien, c'est parfait.
Parfaitement.
On aura l'occasion non seulement d'en reparler, mais surtout de s'en inspirer pour cette émission du Grain à Moudre. Alors, je voudrais qu'on commence avec vous, avec cette affaire Charles Maurras, donc, dont c'est le 150e anniversaire de la naissance, en 2018. Retiré du livre des commémorations nationales 2018 à la demande de la ministre Françoise Nyssen, est-ce que vous considérez les uns et les autres que c'est une bonne ou une mauvaise décision, Aude Lancelin?
Très franchement, je pense que c'était la seule décision possible. Évidemment, on ne peut être que très surpris d'apprendre qu'une commémoration nationale était prévue pour un homme qui disait que sa pensée était indissociable de la haine des Juifs, de la haine des métèques, de la haine des francs-maçons, pour l'inventeur de l'anti-France, du concept d'anti-France. Parce que, évidemment, les deux historiens, Pascal Horry et Jean-Noël Jeannet, à l'origine de cette inscription dans le livret des commémorations nationales, se défendent aujourd'hui en disant « mais une commémoration n'est pas forcément une célébration ». La preuve, c'est qu'on commémore aussi des massacres, sans doute. Mais quand on commémore un massacre, on célèbre le souvenir des victimes vivantes. C'est tout à fait autre chose.
Tandis que là, appel à l'étymologie en disant commémorer, c'est partager la mémoire. Et de ce point de vue-là, commémorer ne veut pas dire célébrer. Mais peut-être que l'étymologie ne suffit pas.
Malheureusement,
à répondre à la
question. C'est un beau sophisme de leur part, mais c'est un sophisme parce que j'ai noté ce qu'on lisait justement sur le site présentant le livre des commémorations nationales 2018. Voilà, et vous aviez la phrase suivante immédiatement. Chaque année, le Haut Comité des commémorations nationales sélectionne et propose à l'agrément du ministre de la Culture et de la Communication une centaine d'anniversaires susceptibles d'être célébrés au nom de la nation. Voilà, on ne célèbre pas Maurras aujourd'hui au nom de la nation.
Ce qui est peut-être étonnant d'ailleurs, c'est que ce nom de Charles Maurras, cette commémoration, ait pu passer le premier filtre et ait pu se retrouver dans le livret officiel que la ministre a donc décidé d'envoyer au pilon. Philippe Manière.
Oui, ce qui est assez singulier, c'est effectivement que dans un premier temps, on dit oui, puis qu'ensuite on dise non. C'est pour le moins de la mauvaise gestion, pas seulement des deniers publics, puisqu'il faut pilonner et rééditer, mais même des services qui sont en charge de tout ça. Mais moi, ce qui m'étonne le plus, c'est qu'il existe même une sorte de cellule chargée de décider que l'État ou la nation vont célébrer ou commémorer, peu importe le mot, un certain nombre d'événements. Je trouve ça très troublant. je pense qu'il y a un certain nombre de noms sur
lesquels... Vous n'avez pas appris ça à son existence, là, quand même.
Si,
quand
si, même pour être très honnête, non, pour être très honnête, j'ignorais jusqu'à son existence. Et je ne vois pas pourquoi ça existe. C'est-à-dire que je crois qu'il y a quelques noms sur lesquels tout le monde ou presque serait d'accord. Je prends un exemple au hasard, Charles de Gaulle. Bon, c'est un personnage historique. On peut imaginer que quand on arrive au centenaire de sa naissance ou de sa mort, la nation se sente concernée. Mais l'idée qu'il y ait une centaine de personnes par an, puisque c'est ça qu'on nous dit, ou une centaine d'événements dont il faudrait que la nation ou l'État se saisisse, je trouve ça complètement inexplicable. Je m'explique précisément. C'est-à-dire que s'il y a des groupes, des gens qui sont partisans, qui sont les adulateurs ou qui considèrent que tel événement est important, bah, qu'ils se débrouillent pour le célébrer et puis éventuellement qu'ils invitent, je ne sais pas, le Premier ministre, le Président de la République, le ministre de ceci ou de cela. Et s'ils viennent, bah, ça aura une connotation pour le coup partiellement officielle. Mais je ne vois vraiment pas pourquoi ce serait le rôle de l'État de désigner un certain nombre de gens ou d'événements qui mériteraient que la nation les commémore particulièrement. Je trouve que ça a quelque chose de, alors pour le coup, d'illibéral et d'assez surréaliste. Je ne crois pas que ce soit le rôle de l'État de décider, encore une fois, si c'était seulement pour une ou deux personnes par siècle, parce que leur nom est incontestable, on pourrait imaginer que dès l'abord, la nation, l'État s'en saisisse. Et pour tous les autres, bah, que ceux qui veulent célébrer, commémorer, commémorent, et s'ils veulent y associer les pouvoirs publics qu'ils demandent, et puis on verra bien ce qui se passe. Mais je comprends pas, moi, tout simplement, l'idée que la nation devrait tous les ans pointer, je pense d'ailleurs que c'est unique au monde, pointer les événements ou les gens qui méritent qu'on les commémore officiellement.
Sylvain Bourmont.
Je partage l'avis d'Aude et de Philippe Manière, à la fois pour estimer que c'était la seule solution possible et pour m'étonner, alors j'ai pas découvert que ça existait parce qu'il m'est arrivé comme journaliste de recevoir chaque année ce livre des commémorations, mais en général je l'ouvrais même pas parce qu'il y a quelque chose effectivement un peu étrange et inquiétant. Alors il y a deux aspects, il y a l'aspect spécifiquement français, mais je vais y revenir, et puis il y a l'aspect phénomène de mise en mémoire, de mise en politique de la mémoire. C'est-à-dire que ces politiques mémorielles, elles sont devenues des véritables politiques publiques. J'ai reçu il y a quelques semaines, à la suite dans les idées sur France Culture, Sarah Gainsburger, qui est une historienne et politiste, qui vient de publier un livre avec Sandrine Lefranc, passionnant, sur cette question des politiques mémorielles, et qui montre bien, à travers leur enquête, comment, finalement, ce travail organisé, officiel, de la mémoire s'est développé de manière considérable depuis une vingtaine d'années. C'est-à-dire que ça a toujours existé. Mais aujourd'hui, on est face à une mise en politique de la mémoire qui prend des formes très très importantes. Et c'est pas propre à la France.
Est-ce que c'est la forme même de la commémoration qui vous pose problème, ou est-ce que c'est le trop grand nombre de commémorations, d'événements, de personnages qui sont commémorés qui vous paraissent problématiques ?
Non, c'est le nombre, parce que ça relève d'un phénomène qui dit quelque chose de notre temps et du rapport au passé. Une hypothèse. Je pense que l'Internet, bizarrement, n'est pas sans rapport avec ça. Je pense que nous avons aujourd'hui un accès au passé immédiat. Alors, par exemple, c'est très vrai pour la musique. Autrefois, on n'avait pas accès facilement à des dizaines d'années de musique. Aujourd'hui, les gamins qui commencent à se faire une culture musicale, ils peuvent puiser dans 50 ans, 60 ans, 70 ans. Même chose pour le cinéma, même chose, etc. Donc, il y a un accès au passé qui est facilité par la numérisation. Et je crois que beaucoup de gens se complaisent. Moi, ça m'a toujours surpris. Je suis profondément contemporain. J'aime lire des livres qui paraissent, qui sont nouveaux. Mais j'entends beaucoup de gens me dire « Ah, mais non, moi, je ne prends pas le risque de lire un nouvel auteur. Je lis des classiques. » Et il y a beaucoup de gens qui aiment vivre dans le passé. Moi, ça m'a toujours frappé, et particulièrement en France. On a
mais commémorer,
rapport...
ça ne veut pas forcément dire vivre dans le passé.
Mais ça va avec.
C'est une façon aussi de voir l'actualité d'un événement ou d'un personnage.
Non, mais ça va avec. Enfin, je crois qu'il y a un goût pour l'histoire qui est très prononcé en France, qui est très organisé par l'État, et que l'une des conséquences de ce goût pour l'histoire organisé par l'État, c'est la pratique des commémorations officielles.
Aude Lancelin.
Non, mais moi, je ne suis pas forcément en désaccord avec le constat de Sylvain sur l'envahissement des commémorations et de la mémoire monumentale, mais par contre, je ne suis pas d'accord avec lui sur les causes de ce phénomène. D'abord, je pense que c'est beaucoup plus. Il faut le voir sur un temps plus long que ça. C'est quand même depuis les années 80, avec les lieux de mémoire de Pierre Nora, avec le travail de Lanzmann aussi, que ça s'est installé dans le paysage intellectuel français. Et d'ailleurs, je ne mets pas du tout ces deux œuvres sur le même plan. Mais c'est, je pense que c'est plutôt dû, en tout cas, pour les lieux de mémoire de Nora et cette passion que les Français se sont découverts pour l'archive, pour leur histoire, à une perte de vitalité actuelle, en fait, présente. C'est-à-dire que les Français sont un petit peu devenus les gardiens de musées de leur très prestigieux passé. À une époque, les années 80-90, où chez nous, on avait le sentiment, on s'enfermait intellectuellement dans une idée de fin de l'histoire, de perte de puissance. Et je pense que c'est là, c'est comme ça qu'il faut lire ce phénomène. Mais maintenant qu'elle est là, cette rage de commémorer, cette passion de commémorer, il faut quand même, je pense, en tirer des conclusions, parce que les commémorations, c'est du présent qu'elles parlent forcément, et les listes qui sont dressées, même si elles font peur à mes camarades, elles sont pas forcément inintéressantes à observer, parce que quand on voit que la même année, on s'apprêtait à commémorer Charles Maurras, qu'on va commémorer la mémoire de Jacques Chardon, hein, qui est toujours dans la liste, dont on peut reparler plus tard, parce que lui aussi a écrit des choses effrayantes sur les Juifs, notamment. Et la même année, on apprend que le président de la République a décidé de ne pas commémorer les 50 ans de mai 68. Donc, c'est quand même étonnant. Les 68 arts, et je n'ai pas l'habitude de les défendre, hein, c'est un anti-rôle pour moi. Les 68 arts sont encore aux commandes économiques, culturelles de ce pays pour beaucoup, hein. Mais donc, on ne va pas commémorer 68. Mais 68, c'est pas que les pavés. C'est pas que les pavés au Quartier Latin. 68, c'est quand même aussi des mouvements dans la jeunesse mondiale, en Europe. C'est le printemps de Prague. Mais... Ne pas parler de cette année-là, ne pas. Tout, en fait, la réalité, c'est que ça dit quelque chose du moment historique que nous vivons et de la résurgence de toute une mémoire réactionnaire. Et de l'enfoncement de toute une mémoire de lutte, ça me paraît évident.
Quelque chose m'indique que Philippe Manière et Sylvain Bourmeau sont d'accord.
Ça ne me paraît pas évident. Ce qui me paraît évident, c'est qu'il est tout à fait légitime et bienvenu. Et moi, je me réjouis à l'idée d'en profiter pendant toute l'année que, encore une fois, les éditeurs, tous les gens qui sont dans le débat public et qui peuvent y contribuer s'intéressent à ce phénomène qui, vous avez complètement raison de ce point de vue-là, Aude, est intéressant, est important, et pas seulement en France.
S'agissant de 1968, il va y avoir des choses.
Mais ça c'est très bien. Mais ce que vous laissez à penser, c'est si ça n'est pas commémoré officiellement, alors personne n'en fait mémoire. Mais pas du tout. Moi, ce que je ne comprendrais pas, c'est qu'il y ait une commémoration officielle. En revanche, je me réjouis encore une fois à l'avance qu'il y ait toutes sortes d'événements privé, organisé par les gens dont c'est à la fois le boulot, l'intérêt, le plaisir. Mais encore une fois, pourquoi faire quelque chose d'officiel? Et surtout, pourquoi penser que s'il n'y a rien d'officiel, alors c'est comme s'il n'y avait rien? Ça me paraît être un biais. Et ce biais me semble
juste
faire écho
un mot à ce... de réponse, Philippe, juste un mot de réponse. Non, en fait, au départ, le président de la République avait envisagé
c'est ça qui me paraît pathologique, moi. Oui.
Non, mais attendez, Sylvain Faure, donc son monsieur commémoration, l'avait mis sur la liste, avait commencé à en parler. Et moi, ce que je crois, mais ça me paraît évident, c'est qu'une espèce de chantage droitier s'exerce maintenant dans ce pays. Non, et qu'il s'est dit finalement,
le retrait de Maurras de la liste ne nous autorise pas à dire que la gauche triomphe et que les idées de droite disparaissent. Non, faut pas chercher des raisons comme ça. Moi, je pense que les raisons qui ont commencé à être évoquées par les uns et les autres sont importantes, parce que pourquoi cette obsession de la mémoire, il y a toutes sortes de raisons. Ça fait écho déjà à quelque chose qui est ressorti, en fait, à la démocratisation du tourisme et de la culture, et qui est évidemment bienvenue. On voit aujourd'hui les immenses succès de certaines expositions. On voit l'immense succès des journées du patrimoine. Je pense que là-dedans, il y a du goût pour le passé, mais il y a aussi le fait qu'un tas de Français qui, avant, n'avaient pas forcément aussi facilement accès au passé et à ses richesses, ils ont de l'intérêt. Mais du coup, vous avez en face du... Ça, c'est la demande, si vous voulez, une vraie demande pour ça. Mais en face, vous avez une offre qui n'est pas désintéressée. C'est-à-dire, pourquoi les hommes politiques, pourquoi le décideur public est-il aussi intéressé par tout ça? Tout simplement parce qu'il y cherche des éléments de légitimité. Il veut envoyer des signaux sur son intérêt pour tel ou tel mouvement, tel ou tel personnage. Et souvent, en célébrant quelqu'un, sans le dire, on essaye de se faire passer pour lui. On essaye de mettre ses petits pas dans les grands pas du géant qui vous a précédé.
Ça, c'est le cas du Panthéon, en général.
C'est aussi ça. Il y a le Panthéon, mais il n'y a pas que le Panthéon. Voilà, je ne vois pas vraiment d'autres raisons pour qu'on ait toutes ces commémorations et ce goût et cette espèce de soin à voir qui on va commémorer. Puis que, enfin, tout ça est absurde et n'est explicable que par le souci qu'ont ceux qui font ces célébrations, ces commémorations, d'en tirer parti pour eux-mêmes.
Sylvain Bormeau.
Je voulais revenir à mai 68 parce que moi, quand j'avais appris qu'il était envisagé de commémorer officiellement mai 68, ça m'avait laissé un peu quoi, parce que quoi de plus anti-68ard,
oui, c'est l'oxymore parfait. Oui.
Mais non, c'est-à-dire qu'au fond, c'est la récupération de la critique. On le connaît par cœur, la récupération de la critique artiste, dirait Luc Boltanski. Donc, commémorer 68, y a pas, moi je suis très à l'aise avec 68, non pas que je sois 68ard, j'avais 3 ans, mais je veux dire que je suis très à l'aise avec les valeurs qu'apportait ce mouvement. Et c'est comme 68ard par héritage, en quelque sorte, que j'étais choqué que ça puisse devenir une commémoration officielle.
Mais pourquoi ça veut dire quoi pour vous commémorer
Mais 68, en fait, j'ai eu l'impression que j'avais 13 ans pour le 10e anniversaire, j'en avais 23 pour le 20e, etc. On arrive au 50e. Toute ma vie, j'ai vu des commémorations de mai 68, mais pas officielles, des commémorations éditoriales, de médias, de journaux.
Pardonnez-moi juste une question.
Il n'y a pas un mouvement qui s'est davantage auto-célébré, auto-commémoré que mai 68. Et c'est très bien.
Mais justement,
parce qu'à chaque fois, on a appris des choses.
Non, mais attendez, un changement d'époque, un rappel à l'ordre.
Non, Aude, j'ai pas eu l'occasion de beaucoup parler. J'aimerais venir au deuxième point et à votre analyse que je conteste formellement. C'est-à-dire que je ne crois pas du tout qu'on soit dans ce moment réactionnaire, ou plutôt que ce moment réactionnaire soit nouveau. À mon avis, on comprend rien à la présence de Maurras dans ce document si on pense que ça a à voir avec un contexte nouveau. Pour expliquer la présence de Maurras dans ce document, il faut au contraire se rendre bien compte que Maurras et les autres, Chardonne et bien d'autres, ont toujours été là, ont toujours fait partie du paysage littéraire français qui aime, pour certains de ceux qui le dépeignent, être voire figurer, ces infréquentables. Ça fait partie de la littérature française. Des grandes maisons d'édition ne sont pas gênées avec ça. Des auteurs ont pu publier des livres ou tenir des propos antisémites il y a peu de temps, être publiés par des grands éditeurs. Et c'est beaucoup moins choquant, visiblement, que les propos antisémites qui viennent de banlieue.
C'est-à-dire que
ça, c'est,
vous parlez de Bruno Camus?
Parce qu'il
a été chassé précisément de sa maison d'édition à cause de ça.
Il a été chassé, il a été défendu aussi par beaucoup. Beaucoup ne se sont pas désolidarisés. Il y a des propos racistes de Richard Millet qui a fini aussi par ne plus être publié par cette maison. On peut les multiplier. Il y a eu énormément de prises de position scandaleuses. Maurras.
Oui, mais la question est de savoir si on commémore ceux qui les ont tenus dans le passé. C'est une toute autre question.
Pour étayer ce que je dis, il faut lire un auteur, Zev Sternel, qui a bien expliqué comment ces anti-lumières ont continué de prospérer après la guerre, dans les années 50, où à Sciences Po, on enseignait les cours d'André Siegfried. Demandez à Zev Sternel ce qu'il en pensait. Est-ce qu'on trouve de traces chez René Raymond de toute cette tradition-là, qui est quand même pas toujours très nette? C'est une longue histoire française, et c'est à mon avis, la trace de ça, la présence de Maurras. Ça n'a rien de nouveau, c'est très ancien, malheureusement.
Aude Lancelin ?
Non, mais alors, pour le coup, je connaissant très bien le travail de Zev Sternel, historien israélien, je peux vous assurer qu'il ne se réjouirait pas de savoir que maintenant les auteurs collaborationnistes et pro-nazis sont devenus.
Mais il serait pas surpris.
Je termine ma phrase. Sont devenus une mode. Bénéficient dans l'édition française maintenant d'un préjugé favorable. Non, c'est absolument la vérité. On peut citer de nombreux exemples pour étayer ce fait. Donc vous avez Drieu La Rochelle en Pléiade. On parle de rééditer Rebatté. On a parlé d'éditer chez Gallimard les pamphlets antisémites de Céline. Je ne sais pas si vous les avez déjà eu entre les mains. Moi, c'est le cas. Ce sont des appels au meurtre, des incantations pour la plupart illisibles d'ailleurs. Donc il y a une espèce de respectabilité nouvelle qui entoure maintenant les auteurs collabos.
Ça n'a rien de nouveau.
Je termine qu'on peut savourer en tant que esthète, demi-esthète. On parle aussi de rééditer Mein Kampf. Le Premier ministre
pas beaucoup
lui-même.
Beaucoup d'esthètes qui vont y prendre plaisir.
Le Premier ministre. Non, écoutez, ça c'est tout à fait nouveau dans l'édition française. Oui. La preuve, c'est qu'ils n'étaient pas édités jusqu'à présent et qu'ils étaient réservés aux universitaires et aux chercheurs dans les bibliothèques. Et je pense que, en tout cas, par exemple, pour les pamphlets de Céline, c'est tout à fait leur place.
Je voudrais qu'on revienne, enfin, même si on n'a pas quitté évidemment ce sujet, mais un peu plus à la question des commémorations, enfin, telles qu'en tout cas elles sont envisagées par les autorités politiques, même si évidemment la question de l'édition d'un certain nombre d'auteurs plus que problématiques, disons, pour utiliser un euphémisme, est intéressante. Vous disiez tout à l'heure, Philippe Manière, que commémorer, c'est aussi envoyer un signal politique. Quel est, d'après vous, le signal politique que vous envoyez aujourd'hui Emmanuel Macron, lorsqu'il annonce, c'était lors du dîner annuel des Arméniens de France, je m'excuse d'ailleurs, c'est pas exactement comme ça que s'appelle l'organisation, mais il fait la promesse d'inscrire la commémoration du génocide arménien dans le calendrier républicain français.
Ça, enfin, c'est très. Enfin, je veux dire, bien sûr, il faut s'incliner devant la mémoire des Arméniens qui ont subi ce martyr. Et ce génocide. Mais manifestement, ça n'a pas d'autre intérêt, je crois, du point de vue de celui qui décide de le mettre au programme officiel de la République que de récupérer le vote des gens qui se sentent concernés. Et c'est très singulier parce qu'on va se retrouver à la fin avec une espèce de file d'attente de gens qui disent « moi aussi ». C'est d'ailleurs ce qui se passe. Et je voudrais qu'on en vienne, pas forcément maintenant, c'est vous qui décidez, Hervé, mais quand même à une partie de notre débat qui me semble pas sans intérêt et qu'on n'a pas du tout abordé jusqu'à maintenant, qui est celui de la liberté d'expression. C'est-à-dire qu'évidemment, on peut désapprouver, et même on doit, à mon avis, désapprouver une grande partie des écrits des gens qu'on vient de citer. Mais d'abord, pas tous. Vous avez dit vous-même que Céline, beaucoup de gens le considèrent comme un grand littérateur. Il se trouve que c'est pas mon cas. Moi, j'aime pas beaucoup Céline, mais peu importe. Beaucoup de gens considèrent que c'est un très grand romancier. Et puis, par ailleurs, il y a des textes inacceptables au regard de tous les principes qui nous sont chers à tous. Qui va faire le départ entre les uns et les autres? Comment peut-on décider de publier ci et pas ça? Moi, c'est toujours pareil. La question de la liberté, elle est complexe parce que ça ne se partage pas. Et donc, je vois bien qu'il faut prendre.
Là, vous nous entraînez, il me semble, sur un sujet qui est quand même assez.
Oui, mais Maurras, revenons à Maurras.
Maurras, la question de la liberté d'expression.
Je n'ai aucun goût pour les idées de Maurras, mais elles ont existé. Elles ont de l'influence et je crois que là-dessus, on est relativement d'accord avec Sylvain sur le fait qu'elles existent probablement encore à titre pas complètement vestigial. Ce ne sont pas les miennes, mais elles ont droit de citer. Et donc, il y a une partie, comme toutes les autres, il y a une partie de ce qu'a dit Maurras qui est inacceptable. Et puis, il y a une partie dont je vois vraiment pas pourquoi on l'a censurée au seul motif que par ailleurs... il a été antisémite et qu'il est incontestablement reconnu comme tel aujourd'hui. Donc, la difficulté, si vous voulez, de l'intervention des pouvoirs publics, c'est qu'il y a un moment où on fait passer les pointillés quelque part, comme on découpe une circonscription. Et on peut toujours contester, et on peut toujours dire ça devrait être de l'autre côté. D'ailleurs, c'est exactement ce qui vient de passer avec Mme Nissen, qui, dans un premier temps, a donné son tampon dans la joie et la bonne humeur à une liste où il y avait Maurras, puis qui, finalement... Peut-être parce qu'elle n'avait pas lu la première liste, mais peut-être aussi parce qu'elle succombait à ce que Louis Manaranche disait il y a peu de temps dans le Figaro Vox, elle a succombé à une panique morale des élites, ce qui est non mais c'est un élément important du débat public aujourd'hui, la hantise des élites d'être mal jugées pour faute de goût par rapport au canon de la bien-pensance. Entendons-nous bien sur cette bien-pensance, je suis d'accord à 99% sur en quoi elle consiste, mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est comment va-t-on décider de ce qu'on publie et de ce qu'on publie pas? Comment va-t-on décider de ce qu'on...
Il s'agit pas, pardonnez-moi, là je pense qu'on sort un petit peu quand même de notre sujet, même si ça a effectivement un lien, c'est-à-dire il s'agit pas de...
Mais on dit qu'il faut pas publier, faut pas commémorer, c'est un peu le même sujet quand même.
Commémorer, c'est aussi faire un travail avec des historiens qui consiste à rappeler ce qu'a représenté Maurras dans la vie intellectuelle de la Troisième République. Alors on peut dire qu'on est pour ou contre, mais il s'agit pas, là, le débat de savoir s'il faut republier Maurras. Parce qu'il me semble plus intéressant quand même, c'est de dire quelle place aussi on accorde dans l'espace public à des personnages qui sont des personnages controversés. Si on prend un autre exemple, si vous voulez bien, c'est-à-dire avec des personnages historiques qui deviennent peut-être avec le temps beaucoup plus infréquentables. Il y a quelques mois de cela, alors ça a commencé aux États-Unis avec des statues qui ont été déboulonnées de généraux confédérés. C'était ça donc aux États-Unis. Et puis, c'est arrivé jusqu'en France avec l'idée de dire qu'il y a peut-être un certain nombre de personnages historiques. Colbert, par exemple, qui est l'inventeur du Code Noir. Et
Christophe Colomb. Il y a des gens qui, New York, voulaient enlever la statue de Christophe Colomb.
Est-ce qu'on peut considérer justement que donner des noms d'édifices, des noms de rues à certains personnages, c'est une façon de les commémorer? Et si on va, du coup, au bout de cette logique, est-ce que ça veut dire qu'il faut, par exemple, peut-être débaptiser un certain nombre d'édifices, débaptiser un certain nombre de rues? Sylvain Bourmeau.
Je crois qu'on... On mélange des choses qui...
Non, là, on parle de commémoration.
Non.
Donc, on est vraiment dans le sujet de ce soir.
Oui, mais précisément, quand on donne le nom d'une rue ou quand on érige une statue, on commémore. Quand on regarde la plaque de la rue 50 ans après qu'elle ait été baptisée ainsi, on ne commémore plus. on est devant une information topographique qui est héritée d'une commémoration passée. Donc la question du fait de savoir s'il faut débaptiser n'est pas liée. On ne commémore pas quotidiennement quand on passe dans une rue qui s'appelle la rue Tartempion. Je veux dire, ce sont deux choses totalement différentes. Et commémorer, ça, c'est effectivement commémorer officiellement, c'est-à-dire que les pouvoirs publics, d'une manière ou d'une autre, proposent qu'on commémore quelque chose. Là, il y a un geste politique. Là encore, il faut faire la part des choses. Entre ce qui relève, par exemple, de l'intention politique d'un président de la République, on nous dit Macron voudrait commémorer peut-être mai 68, finalement non, etc. Et puis ce livre-là qui regroupe plus d'une centaine de commémorations, qui est produit par un comité Théodule, qui n'a rien à voir, en fait, avec cette volonté politique gouvernementale. Ce comité, il travaille dans son coin, ça n'a rien à voir avec le gouvernement. C'est au fond, l'administration qui, à un moment, a installé ce comité, et puis ce document est produit, et ça fait des dizaines d'années que ça existe, et voilà, on peut pas dire, on peut pas rattacher ça à une volonté politique. Ça dit quelque chose des gens qui composent ce comité, peut-être de le ou la ministre qui valide, d'ailleurs, visiblement, un peu rapidement, parce qu'elle se rend compte, après coup, que la liste va pas. Mais on ne peut pas l'imputer et en tirer des conclusions de la même façon que, par exemple, le symbole de 68 qui avait été agité avant d'être mieux rangé dans la poche du président de la République.
Donc, et commémorer le génocide arménien dans le calendrier républicain.
Ça, oui, ça c'est un geste politique qui peut avoir...
Mais qui sert à quoi, ce geste ?
Ben, ça fait partie, pas seulement d'une politique mémorielle, et ça, je pense, d'une chose très importante, qui est une politique de reconnaissance. Je pense que la philosophie politique récemment a insisté sur cette notion de reconnaissance. La philosophie de la justice, il y a un besoin de reconnaissance par les pouvoirs publics dans la société. Alors après, c'est au pouvoir public de faire en sorte que, pour que cette reconnaissance vaille encore quelque chose, de ne pas la galvauder, de ne pas l'accorder n'importe comment, à n'importe qui, etc. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne fallait pas le faire pour le génocide arménien. Je n'ai pas je pense que, vu l'importance historique considérable de ce génocide, hein, il y a eu quelques génocides dans l'histoire du XXe siècle. J'espère qu'un jour on fera la même chose pour le génocide rwandais, par exemple. Voilà, il y a eu le Cambodge, il y a eu quelques génocides, évidemment la Shoah, dans ce siècle. Je suis pas choqué, je suis pas surpris que ça puisse faire l'objet d'une décision de célébration, enfin, ou de commémoration officielle par la République.
Lancelin.
Non, mais Philippe Manière est sur une ligne très libérale sur cette question-là, qui est de la ligne américaine à certains égards, hein, sur la liberté d'expression.
Il y a une tradition d'amour des libertés en France, c'est pas la peine de traverser l'Atlantique.
Oui,
pour
mais sur la question de la liberté d'expression, les positions françaises et américaines ne sont pas les mêmes, tout le monde le sait. Mais c'est pas là où je voulais en venir. En fait, vous vous demandez quel pourrait être le critère pour décider de commémorer un tel et pas un tel, d'éditer un tel et pas un tel, etc. Bon. Et vous dites, mais finalement, Charles Maurras était antisémite, mais c'était adjacent à sa pensée. Il par ailleurs.
Non, j'ai pas dit ça.
Voilà. Non, il se trouve que Charles Maurras est ontologiquement antisémite, que c'est absolument central dans sa pensée.
Mais personne n'a dit le contraire. Hein,
j'ai pas dit le contraire du tout. Vision du monde.
C'était de Céline que je disais qu'il y avait par ailleurs une littérature qui était appréciée
oui,
par beaucoup,
aussi,
dont
pas
moi
aussi
d'ailleurs.
Pour Céline. C'est quelqu'un qui a pu dire, par exemple, qu'il fallait fusiller Léon Blum, détritus humain, dans le dos. En 1935, donc on est même très très avant la guerre, les Allemands, etc. Donc évidemment, dans une période, voilà, il faut penser tout le temps, car la commémoration est un acte politique, entièrement politique, la situation, le passé avec la situation présente. Dans une situation française extrêmement dangereuse, de renaissance de l'antisémitisme, de plusieurs sources d'ailleurs, l'antisémitisme... que l'on trouve dans certaines banlieues, etc., qui est réel, qui ne faut pas nier, et aussi celui d'extrême droite, qui renaît aussi parce que l'extrême droite intellectuelle renaît en France. C'est très important de le savoir et de le dire. Si ces deux choses-là se connectent, très franchement, autour de textes tels que Bagatelle pour un massacre, je pense qu'on aura tous à s'en plaindre et à le regretter.
Mais quelle différence vous faites, par exemple, dans cela, entre commémorer, par exemple, la Seconde Guerre mondiale, avec la Shoah, et commémorer un auteur, par exemple, comme Charles Maurras ? C'est-à-dire, est-ce que ça ne peut pas donner lieu à un travail qui peut être identique ? Ou bien le fait que on parle dans un cas d'un événement et dans un autre cas d'un personnage, ça change complètement la nature de ce que peut être la commémoration.
Oui, alors vous avez raison en principe, sauf que visiblement, les gens à qui on confie ce type de travail de commémoration, soit sont sur une drôle de ligne, soit ne sont pas équipés pour le faire. Quand on voit la notice Charles Maurras, qui était déjà écrite, hein, qui a été rédigée par un professeur d'histoire de la Sorbonne, qui décrit Charles Maurras sur deux pages sans jamais le présenter comme un antisémite, en parlant simplement...
C'est inacceptable.
En parlant simplement de nationalisme intégral et de polémiste redouté.
À quoi s'accroche la commémoration ? Elle s'accroche à sa date de naissance.
Mais bien sûr.
Donc, enfin, je veux dire, qu'est-ce qu'on commémore ? C'est la date de naissance. Parce qu'on peut commémorer, ça se fait, la mort de Louis XVI. C'est la mort qu'on commémore. Le 21 janvier, il y a des républicains qui pensent que c'était une très bonne chose.
C'est quand même très minoritaire, si je peux me permettre.
Le 21 janvier, il y a surtout des nostalgiques du roi qui commémorent.
Hein. Non, mais je prends cet exemple pour montrer que...
D'ailleurs, leur droit.
Je prends cet exemple pour montrer que ça dépend ce qu'on veut commémorer. Est-ce que c'est la naissance de quelqu'un ? Est-ce que c'est, en l'occurrence, sa mort ? C'est évidemment que les gens qui commémorent Louis XVI... Ce sont des opposants à Louis XVI. Ce sont des gens qui sont partisans de la peine de mort pour le roi. Donc,
tous. Hein. Moi, on revient fondamentalement à la question, à mon avis, centrale dans cette affaire, c'est qu'allait-il faire dans cette galère ? C'est-à-dire, de quoi l'État se mêle-t-il en dressant des listes ? Et je suis complètement d'accord avec Sylvain, il faut se mettre à la place de ces gens-là. Ils ont un boulot, on leur donne un certain temps. Il doit y avoir quelqu'un qui est chargé, probablement un stagiaire, de regarder tous les trucs qui ont 50 ans, 100 ans, 200 ans, 300 ans.
Google fait ça très bien.
Et puis après, on réduit ça à 100 parce qu'il faut un nombre rond.
Enfin, tout ça, nos camarades Pascal Aurier et Jean-Noël Jeannet qui nous écoutent, j'imagine, vont être très contents.
Tout ça est tristement trivial. Le fait générateur, c'est que sa date de naissance ou de mort finit en 8. Enfin, ça n'a vraiment, c'est navrant. Et à partir de là, on se dit, est-ce que je le prends, est-ce que je le prends pas ? Puis il y en a 100, puis on les prend, puis on les prend pas. Je suis complètement d'accord avec Aude sur le fait que Maurras est un cas spécialement choquant. Parce qu'effectivement, si dans la notice, on ne mentionne pas qu'il était violemment antisémite, alors on ne fait pas le travail historique de base.
Alors qu'il y avait des gens capables de
le faire. Alors qu'il y avait des gens capables de le faire autour de la table. Donc probablement qu'il n'y a pas seulement le stagiaire qui compte ce qui finit en 8, il y a d'autres gars qui devraient relire et qui n'ont pas totalement fait le boulot. Donc c'est assez choquant. Mais je reviens à mon idée de base. Si on veut éviter ce genre d'incident, le mieux est de ne rien faire. Laissons les gens qui veulent célébrer qui ils veulent célébrer. Laissons-les solliciter les pouvoirs publics. Et puis, naturellement, je pense que quelqu'un chez Macron ou chez Édouard Philippe aurait dit non, le président ou le premier ministre n'ira pas à la célébration de la mort de... Ben, c'est évidemment, là, on met le doigt dans l'engrenage, c'est quand on commence à essayer de dresser des listes, parce que tout est toujours contestable. En l'occurrence, ça l'est tout spécialement.
Est-ce que vous êtes d'accord tous les trois sur le fait qu'il faut tenir toujours ses promesses ? J'imagine que oui. La promesse au début de l'émission, c'était de parler de Maurras. On l'a beaucoup fait. Je voudrais même qu'on dise un mot de la question de Jeff Koons. Ça n'a strictement rien à voir. Enfin, après, a priori, ça n'a rien à voir. Je rappelle donc l'idée, c'est d'avoir une fresque gigantesque, enfin une statue, une œuvre gigantesque devant le palais de Tokyo à Paris pour commémorer les attentats du 13 novembre 2015. C'est un bouquet de tulipes géant. Et il y a une tribune, enfin une forme de pétition qui a été publiée dans Libération avec un certain nombre d'arguments, dont celui-ci qui est le premier, qui dit « Le choix de l'œuvre et surtout de son emplacement sans aucun rapport avec les tragiques événements et leur localisation apparaissent pour le moins surprenants, sinon opportunistes, voire cyniques. » J'aimerais avoir votre avis à tous les trois. Sylvain Bourmeau.
Il n'y a pas eu de choix de l'œuvre. Il y a eu une proposition faite par un artiste qui a fait un cadeau empoisonné, en quelque sorte, parce que cette œuvre, il la donne et en même temps, il faut payer pour qu'elle soit réalisée. Ça, c'est un autre des gros problèmes, c'est-à-dire qu'il donne...
Il paraît qu'il y a une souscription privée, ça ne devrait rien coûter. C'est du mécénat privé,
Alors, très bien, mais moi, ce qui me choque dans cette histoire, c'est plutôt la manière dont les traditionnels opposants à l'art contemporain s'engouffrent dans cette polémique pour redire leur haine de l'art contemporain.
On peut à la fois... Pas que, il y a aussi quelques défenseurs de l'art contemporain qui pétitionnent.
On peut aimer l'art contemporain, le défendre, et puis garder un jugement, je dirais, qui fait qu'on ne trouve pas opportun cette œuvre ou qu'on n'aime pas particulièrement le travail de cet artiste-là, mais il faut que ce débat vive. Enfin, il n'y a pas de... Alors, évidemment, c'est un espace public et pas n'importe lequel. Après, ça n'a rien d'officiel. Ce geste, il part d'une personne, d'un artiste, d'une personne privée.
Et de manière ?
C'est complexe parce que naturellement, ces événements tragiques méritent que d'une manière ou d'une autre, ils soient signalés à l'attention au moins du passant pour l'avenir.
Et moi, je trouve que ce qui se fait dans ce cas-là, c'est une plaque qu'on met sur le lieu. Voilà. Et en faire plus me paraît
c'est
singulier. Le fait, bien sûr, j'espère que c'est déjà fait. Et partout, sur tous les lieux, bien sûr. Aller au-delà et faire une œuvre qui est tout à fait ailleurs, bon, je suis ni pour ni contre. Ce que je trouve un peu gênant, si vous voulez, c'est que certains parlent de la récupération de l'événement par Jeff Koons. Je peux le plaider. Moi, je pense aussi à la récupération par Anne Hidalgo. C'est-à-dire qu'on voit bien comment, en parrainant une œuvre qui est iconique de la modernité artistique, on connote positivement son image. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Pourquoi les commémorations ? Bien sûr, il y a des tas de raisons justifiables, et puis il y en a des tas qui sont mauvaises. Et dans les mauvaises, il y a se faire mousser au moment où on montre quelque chose. Et choisir cet artiste-là qui n'a strictement aucun rapport avec les événements en question, ça n'est pas anodin. C'est pour surfer, en quelque sorte, sur, encore une fois, l'incarnation absolue de la modernité la plus moderne. Et bon, voilà. Je suis peut-être injustement suspicieux, mais on ne peut pas ne pas avoir ce soupçon, me semble-t-il, tellement il y a un décalage complet, puisque ni le lieu ni l'objet n'ont rien à voir avec ce qu'on prétend célébrer.
Lancelin.
Alors, l'explication de Jeff Koons, c'est que cet énorme et monstrueux et gigantesque bouquet de tulipes symbolise le geste d'offrir, le don, voilà. Donc, évidemment, moi, de toute façon, je mets en cause, quitte à passer pour poujadiste au lieu de Sylvain Bourbeau, l'art de Jeff Koons, qui, à mon avis, est avant tout à vocation spectaculaire et spéculative, oui, surtout, hein, qui s'adresse à des millionnaires, des milliardaires. Bon, voilà.
Les artistes sont rarement vendus dans l'histoire à des pauvres. Par définition, ils vendent à des gens qui ont les moyens d'acheter, enfin, à Venise, etc.
Il y a des cas. Un cas très spécifique quand même, qui est quand même celui de Jeff Koons. Je pense par ailleurs que, apparemment de l'avis général, cette œuvre est énorme, détruira la perspective vers la Seine, et qu'elle est située entre deux des principaux musées nationaux. Ce qui est quand même.
À ce compte-là, on peut détruire le Sacré-Cœur, qui n'est peut-être pas très beau, la tour Montparnasse, non ? Enfin, il y a aussi un certain nombre de monuments.
Écoutez, je vous laisse la responsabilité de cette phrase. Le bouquet de tulipes de Jeff Koons et la tour Eiffel.
Mais non, mais votre observation.
Votre
observation, Hervé, sera très intéressante par rapport à tout ce qu'on a dit. On revient à la rue Robespierre. Si aujourd'hui, on mettait une plaque à la gloire de Robespierre, d'ailleurs, il y a des demandes en ce sens dans certaines villes, je pense qu'on poserait un acte qui mériterait qu'on le débatte longuement. Pour dire le moins. Mais là, il s'agit pas de quand on veut enlever les plaques, il s'agit pas de célébrer, il s'agit de décélébrer. Il s'agit de faire comme si on effaçait ce qui existait. Il y a eu un moment où Robespierre incarnait quelque chose qui était connoté positivement. Il y avait un consensus social autour de ça. Jeff Koons, c'est pareil. C'est qu'on est en train de se poser la question de savoir si on va enlever la statue.
Alors, je vous signale
c'est symétrique. Est-ce qu'on la pose?
Il y a eu un certain nombre de rues Pétain. Jusqu'à récemment. D'ailleurs, ça veut dire qu'il fallait ne pas les débaptiser, ces rues-là. Il faudrait qu'il y ait encore des rues Pétain aujourd'hui.
Bonne question. Ah. Je ne sais pas s'il y en a eu beaucoup. Moi, j'en ai jamais vu. Il y a des rues Staline qui existent aussi. Enfin, il y a tout un tas de rues de gens.
Je signale d'ailleurs à Philippe ce soir qu'il existe un métro Robespierre à Paris,
oui,
sur la ligne 9.
Oui, absolument.
Voilà. Et des rues Pétain,
j'y suis passé, je vous rassure.
Il y en avait encore trois jusqu'en 2010. Voilà, j'ai la liste. Tremblois les Carignan dans les Ardennes, Parpeville dans l'Aisne et Dernancourt en Somme. Jusqu'en 2010, il y avait des rues Pétain en France. Elles ont fini par être débaptisées.
Mais peut-être on aurait pu mettre Pétain et juste les dates de la Première Guerre mondiale dessous.
Alors, je ne sais pas à quoi elle ressemblait précisément.
Pour prendre un moment de la vie de celui qui a été un général de la Première Guerre mondiale avant de devenir...
Et qui, d'ailleurs, a acquis une grande partie de sa popularité en étant, il ne faut pas l'oublier, parce que naturellement, on sait qu'ensuite, il est indéfendable, mais en étant celui qui arrêtait le massacre de la Première Guerre mondiale. C'est ce qui explique, justement, qu'il ait été ensuite si longuement populaire.
Bah, vous voyez que mon histoire de plaque de rue, finalement, elle est entrée quand même un peu dans le sujet de ce soir. Merci, en tout cas, à tous les trois, Aude Lancelin, Sylvain Bourmeau et Philippe Manière, d'avoir participé à cette discussion. Sylvain, demain, dans la suite dans les idées
sur les bords de la fiction, ce sera avec le philosophe Jacques Rancière et avec l'écrivain Régis Geoffrey.
Merci à toute l'équipe du Grain, Antoine Dulster, Fanny Richet, Virginie Leduo, Antoine Tricot et Prune Saez. Émission réalisée par Véronique Villa avec à la prise de son Pierre Monteil, Célia Dufour, Stéphane Touvenin et Tar Bouklifa.